Bonsoir. Je ne ferai pas ce soir la même présentation de notre orateur Pierre Augoutz, parce que désormais, il est bien connu à Paris, en tout cas de vous. Je rappellerai simplement que la semaine dernière, il nous a présenté ses vues sur les premiers pas des Grecs en Occident en nous parlant de Pithecus et de Cume, et qu'aujourd'hui, il va aborder la même question en ce qui concerne la Sicile, en prenant évidemment pour exemple la célèbre fouille de Mégara Ibléa, qui, comme vous le savez, a été longtemps dirigée par François Villard et Georges Vallée. Comme ma présentation est très écourtée, ça nous laissera un petit peu de temps éventuellement pour quelques questions, si vous souhaitez solliciter l'orateur ou contester ses vues.
Grazie. Bonsoir, mesdames, messieurs. Grâce à Thucydide, nous disposons d'une liste ordonnant chronologiquement les fondations des colonies grecques en Sicile. Ce tableau a certes été contesté en partie par les historiens modernes, mais il reste la base. La liste commence avec la fondation de Naxos et on peut calculer les intervalles de temps entre la fondation est représentée dans ce tableau. Vous voyez le... les noms des fondations grecques, leur cité mère, le ciste, c'est-à-dire le fondateur principal, et l'intervalle avec la suivante, parce que Thucydide donne cette succession ordinaire de villes. À cette succession, on peut ajouter des autres qui partent de la fondation de Syracuse. Un premier tableau concerne les fondations faites par Syracuse elle-même, avec l'intervalle de la fondation originaire de Syracuse et les suivantes fondations. Et une deuxième, avec des intervalles pour fixer les dates de Gela et d'Agrigento. Zancle, c'est-à-dire Messina aujourd'hui, reste hors de ce cadre, comme il y a été dit lors de la conférence précédente. Thucydide mentionne également, mais sans indication chronologique, Himère, fondée par des exilés de Zancle et de Syracuse. Le couplage de ces listes avec la chronologie absolue conventionnellement suivie est fourni par la date de la déportation complète des habitants de Mégara Ibléa, qui l'on situe entre 484, année de la cession de Gélon à la tyrannie à Syracuse, et 481-80, avant Jésus-Christ, bien sûr, date qui est donnée par Hérodote, qui mentionne la déportation des habitants de Mégara par Gélon. Jean Bérard datait l'avènement de 482. Dan Bébin penchait plutôt pour 483-2. De sorte que la date la plus communément acceptée pour la fondation de Mégara Ibléa remonte à 728-7 avant Jésus-Christ. Les autres datations sont calculées par rapport à cet événement. La succession des fondations met en première position Naxos, suivi immédiatement de Syracuse. Puis, dans un laps de temps de 6 ans, surviennent toutes les autres fondations de la première vague d'émigration grecque sur l'île, majoritairement chalcidienne. Ecco, vous voyez ici l'espace très resserré entre lequel se situent toutes les fondations de la Sicile. Les historiens modernes ont remarqué que la durée d'existence de Megareblea est équivalente, selon Thucydide, à la durée de sept générations telles qu'il les évalue lui-même à 35 à 1. Le même type de calcul s'applique à Sybaris. Six générations de 35 années correspondent aux 210 années que la tradition a signées entre la fondation et la destruction de la Poikia des Achéennes. Ainsi, les calculs rapportés par Thucydide et d'autres historiens de l'Antiquité en particulier pour les événements advenus dans une période reculée doivent être considérés avec une grande prudence. D'autant plus que, dans la chronologie de Thucydide, il n'échappe à personne que Syracuse occupe une position prestigieuse. Seulement une année sépare sa fondation de celle de Naxos, contrastant avec les cinq ans qui la détachent clairement de Catane, de Leontinoi et la période d'indétermination caractérisant l'arrivée des Mégariens conduits par Lamis à Trodilon, selon Thucydide. En fait, lorsque Thucydide écrivait son traité, il pouvait disposer des écrits d'Antiochos. Originaire de Syracuse, celui-ci avait sûrement embelli les origines de sa propre patrie, tentant d'en faire la plus ancienne des cités grecques de l'île, ou presque, et reflétant la puissance qu'elle avait acquise de son temps et qu'elle maintint par la suite. Malgré une telle partialité, Naxos restait considéré comme plus ancien que Syracuse, même si ce n'est que d'un an. Cette suprématie accordée à la fondation chalcidienne venait de l'autel élevé à Apollon Archégète, sur lequel sacrifiaient les ambassadeurs de toutes les cités grecques de l'île lorsqu'il retournait vers le sanctuaire de la mère patrie, comme nous fait savoir Thucydide. Cette tradition doit être considérée comme originelle et elle s'est maintenue grâce à la croyance générale que l'autel était le plus ancien témoin d'un culte grec érigé sur l'île. Compte tenu de la rivalité profonde qui a marqué les relations mutuelles entre les villes siceliotes, la perpétuation de l'hommage plaide en faveur de l'authenticité de cette tradition. À côté des difficultés que les sources écrites posent à la chronologie absolue des fondations siceliotes, les découvertes archéologiques passées et présentes permettent de dresser un tableau, bien évidemment incomplet et toujours en voie d'amélioration, qui montre une approximative contemporanéité du matériel céramique des couches profondes des différentes cités, de Zancle à Naxos, en passant par Megareblea et Syracuse. Il faut toutefois rappeler qu'à Syracuse, on a des preuves archéologiques et historiques d'une présence indigène avant la fondation de l'établissement grec. Ce qui nous replace devant les hypothèses qui ont été examinées à propos de Pithecus et de Cumes. À Naxos, les fouilles les plus récentes ont mis au jour une quantité considérable de céramique modelée de fabrication indigène, présente dans les mêmes strates que la céramique grecque. Il est donc assuré que des individus autochtones, en l'occurrence féminins, habitaient dans la cité juste après sa fondation. Nous en avons la preuve grâce à la découverte de la tombe 72, datable entre la fin du 8e et le début du 7e siècle avant Jésus-Christ. La déposition comportait une jeune femme et un nouveau-né. L'immobilier funéraire était composé d'une fibule de bronze à long gardillon, de deux anneaux de bronze et une haribale corinthienne, transitional to avoid. Dans ce cas, la fibule désigne la jeune femme comme une composante indigène de la culture mixte qui a été mentionnée dans le cadre de la nécropole de Pithecus. Des découvertes archéologiques de Zincle, à l'emplacement de l'actuelle Messine, on ne connaît jusqu'à présent que très peu, de sorte qu'il est impossible de se faire une opinion sur la probable différence des fâches archéologiques entre les périodes, la période d'occupation par les pirates cumènes et la fondation des Périères et Cratémènes. Seul Megara Iblea a été fondé sur un site non occupé par les indigènes dans la période précédant immédiatement sa fondation. Les nouveaux arrivants avaient toutefois identifié les vestiges d'un village néolithique qu'ils sacralisèrent par des lieux de culte à leur emplacement. Strabon, dans son livre 16e, rapporte que Théoclès effectua des voyages d'exploration sur la côte orientale de la Sicile, observant la fertilité de la terre et la faiblesse des peuples autochtones. À ces conditions favorables s'ajoutait alors le contrôle des deux rives du détroit de Messine par les pirates envoyés par Cum et l'ouverture à la navigation grecque de la mer Ionienne, à travers laquelle le trajet vers l'Italie était plus court et plus sûr qu'il n'était précédemment. Ce n'est pas un hasard si les plus anciennes implantations grecques en Occident sont toutes d'origine eubène. Les habitants d'Érythrée avaient fondé une base sur l'île de Corcyre. Non, pardon, c'est ici. Aujourd'hui, Corfou, comme vous savez, de laquelle ils furent chassés par les Corinthiens lors de leur expédition en vue de fonder Syracuse. Corinthe et Syracuse, c'est ici. Et les sources sont à nouveau Strabon et un passage de Plutarque dans les Questiones Grecques. Ils exerçaient donc un contrôle sur les points névralgiques de l'itinéraire le plus direct entre la Grèce propre et le golfe de Naples. Itinéraire, on s'en souvient, qui ne prendra sa pleine valeur que lorsque les pirates cumènes se seront assurés du contrôle du détroit de Messine, s'opposant aux entreprises de piratage des Étrusques. Ici, et le piratage étrusque et sarde, proprement dans les bas tyréniens, et les érythréens, avant d'être chassés de Corfou, contrôlaient les passages vers l'Italie du sud de la détroit de Messine. À côté de la tradition écrite, la documentation archéologique témoigne, selon les indications jusqu'ici rassemblées, que les sociétés indigènes étaient en contact avec les navigateurs grecs au cours de la première moitié du 8e siècle avant Jésus-Christ, comme on l'a vu pour les indigènes de l'Italie méridionale. Le site qui jusqu'à présent a livré la plus grande abondance de mobilier appartenant à cette phase est la nécropole de Marcellino di Villasmondo, dans l'arrière-pays de la future Megara Iblea. Megara Iblea, c'est ici, et Villasmondo, ici, sur la vallée de cette rivière, Marcellino. On a émis l'hypothèse que l'agglomération à laquelle devait correspondre cette nécropole, c'était la capitale des rois Siculiblon, du nom duquel les Grecs auront appelé leur établissement en donnant son qualificatif à la fondation mégarienne. Un grand fragment d'un fort cycladique réutilisé comme couverture d'une tombe plus récente de la nécropole de Syracuse appartient au même horizon chronologique. Cependant, la plupart des découvertes de céramiques de production grecque réalisées dans les contextes indigènes, que ce soit la nécropole di Cocolonazzo di Mola à Taormina ou celle de Modica à Avola, ou Solerino, sont attribuables aux géométriques récents, immédiatement avant ou à peu près en même temps que les fondations chalcidiennes. Cette fondation n'incluait pas les érythréennes, comme cela s'était produit à Pitecuse, car elles furent réalisées après la guerre qui opposa les deux principales cités de l'île. Cette indication est une preuve des postériorités des expéditions vers la Sicile par rapport à l'installation à Pitecuse. L'existence d'une seule fondation de Corinthe, celle de Syracuse, constitue une exception dans les paysages de la présence grecque en Sicile orientale. Rappelons à cette occasion, qu'à cette occasion, les Corinthiens avaient expulsé les Érythréens de Corcyre. On peut en déduire que cette action avait été accomplie avec l'approbation de Chalcis, et donc pendant ou immédiatement après la guerre qui vit la défaite d'Érythrée. En outre, la prise du pouvoir à Corinthe par les Bacchiades entraîna deux phénomènes. D'une part, les nouveaux pouvoirs favorisaient un essor des activités artisanales locales, bien marquées par la large diffusion de la céramique corinthienne avec ses contenus d'huile parfumée et de vin, eux aussi produits de transformation. D'autre part, ils s'employaient à régler les tensions sociales créées par les couches inférieures de la société et par les opposants politiques, parmi lesquels on compta Archias, le ciste de Syracuse, en leur offrant la possibilité de disposer de terres agricoles à l'étranger. D'un côté, donc, Corinthe s'étendit vers la côte est de l'Adriatique. D'autre part, en accord avec Chalcis, elle prit pied en Sicile, se servant de Corcyre nouvellement conquise comme pivot de son nouvel réseau. Rappeler ces circonstances me semble utile pour relier les deux déroulements et les causes des événements auxquels nous assistons en Italie méridionale et en Sicile à ceux qui s'est déroulé en Grèce même. Sur les origines grecques des fondations en Occident, personne n'a de doute, même parmi les plus récents historiens de la Grèce. Par conséquent, pour essayer de comprendre ce phénomène, il faut tenter de connaître la situation interne dans les polis de la Grèce même au cours de la seconde moitié du 8e siècle avant Jésus-Christ et immédiatement avant. Je viens de rappeler la situation sociopolitique de Corinthe, mais celle de Chalcis n'était pas fondamentalement différente. La cité, Chalcis bien sûr, était dominée par la classe des hippobatai, terme qui signifie éleveur de chevaux. Le système héréditaire grec prévoyait que seul l'aîné entrât en possession du lot agricole nécessaire pour être considéré comme un citoyen à part entière. Ainsi, les cadets formèrent bientôt une classe de mécontents potentiellement dangereux pour la stabilité de la polis. L'exemple historique le plus fameux est celui de la tentative de rébellion des Parthénoi, dirigé par Phalantos à Sparte, à la fin de l'une des guerres des Messénies. Il n'y a donc pas à douter que l'organisation des expéditions au-delà des mers, dans le but de fonder de nouvelles villes, a été accomplie par des gouvernants de la polis d'origine et motivée par un objectif de maintien de l'ordre social. Ce modèle herméneutique est conforme à ce que nous savons du régime héréditaire et de la propriété en vigueur en Grèce, pas seulement durant le haut archaïsme. Il suffit de relire Hésiode et de méditer les ressentiments qu'il éprouve à l'égard de son frère Persée, plus chanceux. Ou il suffit de réfléchir à la signification de l'attribution automatique avant même d'avoir réalisé la fondation dans l'eau de terre à tous ceux qui partiraient de la mer patrie. C'est ce que l'on peut conclure de l'anecdote rapportée par Démétrios de Skepsis, citée dans le livre 4 d'Athénée de Nocratis, à propos d'Éthiops, citoyen de Corinthe, qui, au cours du voyage par mer allant à fonder Syracuse, échangea son futur lot contre un gâteau au miel. Et Encore une fois, rappelons-nous la répartition des terres agricoles qui fut réalisée à Zincle au détriment des Sicules lors de l'arrivée de la Poichia de Périere et Cratémène. Quel intérêt auraient pu avoir des individus particuliers à organiser des expositions de ce genre? Les échanges de biens, pratiques définies par le mot praxis, le mot grec praxis, dans les textes qui traitent de ces questions, bien décrits notamment par Hésiode, étaient des actes individuels qui n'aboutissaient pas à des établissements permanents outre-mer. Pourquoi, dans ces conditions, imaginer que des initiatives privées auraient eu l'ambition de créer des fondations au-delà des mers et les auraient effectivement accomplies? Sur ce point du débat, nous pouvons appuyer notre interprétation sur une source écrite. Elle provient de Caron de Lampsac, historien des vicissitudes de son propre pays, qui est cité par Plutarque. Phobos de Phocée, qui s'était attiré les faveurs de Mandron, roi des Béburiciens, fut invité par ces derniers à fonder une nouvelle cité. Les rois ayant mis à disposition les territoires nécessaires, démontrant ainsi sa bienveillance. Mais Phobos dut retourner chez lui pour convaincre les Phocéens de la facilité de l'entreprise, et ce n'est qu'après avoir obtenu le consentement de ses concitoyens qu'il revint auprès Mandron pour fonder la nouvelle ville. C'est bien là le point essentiel. Le changement des statuts de l'entreprise qui, déprivé comme le fut le voyage de Phobos chez les Béburiciens, devint public lorsque la nouvelle fondation reçut l'accord de la mère patrie. La même procédure est exposée par Strabon lorsqu'il raconte que Théoclès a dû convaincre les Chalcidiens pour pouvoir fonder de nouvelles cités en Sicile. Et il en est aussi ainsi pour les Méliens, toujours second Plutarque. Mais revenons aux données archéologiques relatives à l'aspect des fondations grecques de la première génération en Sicile orientale. Parmi elles, seuls Naxos et Mégara et Bléa sont suffisamment connus grâce aux fouilles archéologiques qui ont été effectuées. Zincle est très peu connu jusqu'à présent pour ceux qui regardent sa phase initiale qui nous intéresse ici. On peut en dire autant pour Syracuse et Catane, car ces trois villes n'ont cessé d'être occupées jusqu'à ce jour, couvrant, quand ce n'est pas détruisant ou bouleversant, les vestiges les plus anciens. Même pour Léontini, on ne dispose pas encore des données sur la période qui nous intéresse ici. Les fouilles archéologiques n'y ont pour l'instant mis au jour que des contextes et des monuments plus récents. L'exemple le plus emblématique et le mieux étudié de la première génération des Apogoi est la cité de Mégara et Bléa. Elle a commencé à être étudiée à la fin du XIXe siècle par Paolo Orsi, puis, grâce à une œuvre de longue haleine, elle a été mise au jour par des maîtres tels que Georges Vallée et François Villard, puis plus récemment par nos collègues Michel Grand, Henri Trasini et Henri Bois. Ici, vous voyez Georges Vallée qui parle à des visiteurs de Mégara. Même si, comme je viens de le dire, les données concernant Zincle sont peu nombreuses, elles sont d'un grand intérêt. Les fouilles récentes ont donné lieu à une découverte remarquable dont l'interprétation pose de vastes questions. Non loin du port, sous l'habitat moderne, un site archéologique présente une longue période d'occupation. Pour notre présent propos, on s'intéressera à deux bâtiments de plan rectangulaire. Ecco. construit entre le 7e et le 6e siècle avant Jésus-Christ sur un socle de pierre, sur un socle en pierre sèche portant une élévation de terre crue. Une salle au fond du bâtiment A comporte une banquette de maçonnerie le long de trois murs. Un tel aménagement s'explique pour donner des banquets. Sous ces deux bâtiments, on trouve un grand tumulus composé de pierres reposant sur un sol qui a été... Ici, ce sont les pierres de tumulus qui font la base du mur que nous avons vu dans la photo précédente. Ce tumulus repose sur un sol qui a été daté entre la fin du 8e et le début du 7e siècle avant Jésus-Christ. Ce sol était couvert de terres brûlées, de restes de nourriture et de vases déposés. Ce sont les vestiges de l'accomplissement d'un acte rituel important. Les constatations archéologiques se bornent à ces observations. Pour les interpréter, il est utile de rappeler le rite décrit par Callimaque à propos des honneurs rendus aux assistes de Zancle. Ce passage se trouve dans le deuxième livre de Aïtia, publié par Pfeiffer sous le numéro 43. La cérémonie était centrée sur un banquet organisé pour coïncider avec l'anniversaire de la fondation de la ville. On comprend aussi, grâce au contexte, que ces célébrations servaient également à enregistrer les passages du temple, de sorte qu'on pouvait calculer le nombre d'années d'existence de la cité depuis sa fondation. En l'occurrence, la correspondance entre les écrits de Callimaque et les données archéologiques semble parfaite. La superposition d'une salle à banquet au tumulus qu'on interpréterait comme la sépulture ou la cénotaphe d'un des assistes indique que le rite des hauts archaïsmes s'est perpétué au cours des temples. À Syracuse, selon Thucydide, Archias organisa l'actisis, c'est-à-dire la fondation véritable, seulement après avoir chassé les sicules de l'île d'Ortigia. Les fouilles de Paolo Ursi, puis celles de Paola Pelagatti et Giuseppe Vozza dans le centre historique de Syracuse ont d'ailleurs apporté des témoignages clairs de l'existence d'un habitat indigène. Les fouilles sous les bâtiments de la préfecture ont mis au jour une cabane occupée entre le 10e et le 9e siècle avant Jésus-Christ. Des niveaux archéologiques sicules sans importation grecque sont recouverts par des couches qui contiennent à la fois du mobilier indigène et grec, ces dernières datant du dernier quart du 8e siècle avant Jésus-Christ. En plus de la continuité d'occupation, il faut noter les particularités résultant de longues durées de peuplement de Syracuse. En effet, les couches remontant aux origines de la cité sont de très faible épaisseur. Il est malaisé d'interpréter l'assemblage de vases grecs et indigènes. Est-il la preuve d'importation grecque antérieure à l'actisis ou bien celle de la présence d'individus sicules et de leur production après que la fondation ait été effectuée? Que dans la ville grecque aille également vécu des sicules est démontrable. Outre la mention par Hérodote des Kilirioi ou de Kilikirioi, esclaves effectuant des travaux agricoles, il faut signaler un graffito gravé par Zanclaia comme dédicace d'un vase proto-corinthien. Ce nom de Zanclaia ou Zanclaia et celui d'une femme dont l'onomastique répète le toponyme indigène de la fondation chalcidienne de Zancle, toponyme indigène qui nous a conservé Thucydide. Les vestiges attribuables avec certitude aux premières phases de la cité grecque sont des murs rectilignes, au demeurant très incomplets, mis au jour sous la préfecture et sous le temple ionique. À Piazza Duomo, des fondations d'un bâtiment en forme d'oikos datent de la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ, du fait de sa forme. Il a été interprété, mais sans fondement, je crois, comme le plus ancien lieu de culte de la cité de Syracuse dès sa création. Si on laisse de côté les vestiges jusqu'ici connus à Catane, au demeurant les maigres restes des bâtiments de l'époque archaïque qui ne remontent pas à la période de la fondation, nous pouvons examiner les données acquises à Naxos au cours des dernières années. La fondation chalcidienne a été implantée dans la péninsule qui l'on nomme aujourd'hui Skizo, avec au nord un port favorable, mais maintenant sablé ici. L'ancien rivage, c'était plutôt à l'intérieur. Sous la cité archaïque, détruite et dépeuplée par Denis l'Ancien, tyran de Syracuse en 403 avant Jésus-Christ, ont été mis au jour les vestiges des plus anciens habitats, celui des fondateurs. Toutefois, même ici, les données archéologiques ne sont pas assez claires pour évaluer pleinement la nature des rapports entre les indigènes et les nouveaux arrivants. Il convient de rappeler que la péninsule de Skizo fut le siège d'habitats indigènes depuis l'âge du bronze, époque à laquelle remonte un imposant mur défensif longeant les rivages. La côte est dominée par la nécropole de Coronazzo di Mola, que nous avons nommée au début, dont provient des récipients céramiques grecs, comme une cotille de type Aetos 666, datable entre les géométriques récents 1 et 2. Cet objet témoigne donc des échanges avec les navigateurs grecs avant la fondation de Naxos. Dans la zone de Skizo, des habitations à plan et abside, aux murs à base de pierres sèches, sont recouverts par des maisons à plan rectangulaire. Cette évolution évidente ne rencontre pas d'évolution parallèle dans l'immobilier qui nous révélerait une différence chronologique reconnaissable. Dans la mesure où l'immobilier est stratigraphiquement associé à l'une et l'autre des structures architecturales, appartient à la même phase de géométrique récente 2. Les productions céramiques grecques sont mêlées à celles en pâte modelée indigène dans une bonne proportion. Gardant à l'esprit la coexistence assurée des indigènes avec la première génération des chalcidiens, des femmes comme dans les cas déjà mentionnés dans la tombe 72, la composition exacte de la population de la péninsule de Skizo reste incertaine au stade actuel de la recherche. Le développement progressif des bâtiments suivant un urbanisme orthogonal et aligné manifeste certainement les effets d'une réglementation issue de la culture grecque. Mais pour ce qui est de la forme du plus ancien établissement, en l'absence des données archéologiques univoques, l'interprétation dépend de la mentalité du chercheur d'aujourd'hui. Ainsi, certains peuvent croire que les apogées chalcidiens ont progressivement développé leur nouvelle ville après avoir chassé les sicules de la péninsule de Skizo, tout en gardant avec eux les femmes et ceux qu'ils jugeaient utiles pour réaliser des gros travaux. Ou bien, d'autres peuvent penser que les Grecs et les sicules, qui se connaissaient mieux les unes les autres grâce aux échanges antérieurs qui se passaient dans l'habitat voisin de Villasmundo, ont vécu une bonne intelligence dans la ville nouvelle. Les sicules auraient alors préservé leurs coutumes jusqu'à ce que l'influence de plus en plus forte de la culture grecque ait dominé une culture qui n'était pas mixte car composée majoritairement de traits grecs et bien moins indigènes. Franco De Angelis a proposé récemment un troisième modèle interprétatif. Les terres, jusqu'alors en friche, auront été exploitées à la fois par les Grecs installés dans la nouvelle ville et à la fois par des indigènes repoussés par les Apogoi au moment de leur implantation, au-delà des zones qu'ils occupaient et cultivaient eux-mêmes. Les Grecs, que l'on devrait maintenant qualifier de Siceliotes, auraient exploité ces terres défrichées pour les rendre aptes à l'agriculture de telle façon qu'ils auraient associé pacifiquement les habitants indigènes et ils auraient progressivement pris possession des terres apportées en dos lors des mariages. Telle est donc la reconstitution proposée par De Angelis, mais les sources antiques témoignent abondamment que les rapports entre Siceliotes et indigènes ont beaucoup évolué, passant de la violence à l'alliance. Traversant tout l'arc de la violence et de l'alliance. L'archéologie établit clairement que l'excédent de l'ensemble des activités pratiquées dans les zones touchées par les Apogoi et dans les régions voisines de celles-ci était canalisé vers les villes nouvellement fondées. Tant et si bien que, sorti de nulle part, en quelques siècles tout au plus, nous voyons émerger de splendides réalisations monumentales, sacrées et profanes, à Syracuse, à Selinonte, à Gela, à Agrigente, à Mégare et Blaye, alors que les établissements sicules qui étaient florissants pendant l'âge du bronze et l'âge du fer s'approvisent progressivement car ils ne sont pas complètement abandonnés. Il subsiste, il est vrai, à l'intérieur des terres des agglomérations comme Monte San Mauro près de Caltagirone, mais elles prennent un aspect et une organisation à la grecque, comme démontre amplement la découverte de la table en bronze inscrite portant des textes législatifs inspirés par la culture de Calcis. Sauf erreur, De Angelis ne discute pas la tradition historiographique à propos des Leontines, peut-être par manque de confiance en sa valeur, mais il ne faut pas oublier qu'un cas similaire a été rapporté per l'ocre pisiférienne da Polybe, sans parler du cas déjà mentionné de Zancle, rapporté par Thucydide. Leontini fut fondé par Théocles. Dans un premier temps, après un serment d'amitié, grecs et sicules cohabitèrent, mais peu après, ces dernières furent exterminées par des mégariens à la solde des grecs. C'est la même histoire à peu près de Zancle, où les sicules vivaient en paix avec les pirates cumènes. Quand est arrivée l'apogée, les terres des sicules ont été divisées entre les grecs et les sicules chassés. Cette histoire, qui est narrée par Polieno, est partiellement confirmée par Thucydide, qui se borne à dire que les Chalcidiens, sur le point de fonder les Leontinoi, menèrent une guerre contre les Sicules. La raison de cette volte-face ne semble tenir à rien d'autre que la nécessité de la part des Apogoi de disposer largement de terres agricoles, aux dépenses des propriétaires sicules originels, dont nous pouvons imaginer qu'ils furent révoltés. Des sources écrites en tirent l'enseignement que les Grecs n'étaient prêts à qu'un compromis en ce qui concerne la propriété pleine et entière des terres agricoles. Dans notre tentative de reconstruire les premières phases du développement des nouvelles fondations grecques en Italie méridionale et en Sicile, les événements précités nous amènent à ne pas négliger l'évolution des rapports en grec et indigène. On assiste à un développement progressif qui implique presque toujours un profond changement dans la nature des relations elles-mêmes. L'application archéologique de cette méthode d'interprétation, que nous avons déjà proposée pour CUM dans la conférence précédente, a été réalisée dans une étude récente menée par Henri Trasini sur les origines des Mégare et Blaye, publiée dans les Römische Mitteilungen de 2011. Les événements relatifs à cette fondation sont parmi les plus complexes de tous ceux dont la mémoire a été préservée. Mais il est très probable que dans la réalité, il y a eu bien d'autres événements similaires ou semblables dont aucun souvenir n'a été conservé. L'Apocrypha envoyée en Occident par Mégara Nicéa, ville-mère de Mégara Ibléa, a été conduite par Lamis. L'expédition fonda à son arrivée en Sicile un établissement nommé Trotilon, sur un site qui n'a pas encore identifié. C'est l'identification de M. Bernabo Brea. Celui-ci, cependant, devait être situé sur la côte orientale, au sud de l'embouchure de la rivière Simeto, de manière à constituer, conformément à une hypothèse vraisemblable de Thomas Dunbabin, un poste de contrôle sur la côte afin de garantire la sécurité des Leontinoi.
Leontini, c'est désir.
En fait, les Mégariens étaient, selon Strabon, associés aux Chalcidiens de Théoclès pour la fondation de Naxos, la cité mère des Leontinoi. Toutefois, cette association n'est pas mentionnée par Thucydide et elle est reportée plus tard par le pseudo-Skimnos. La variété des traditions à cet égard reflète l'âpre concurrence que s'est livrée les différents polis de Sicile, chacune réclamant la primauté sur les autres et minimisant leur rôle et leur histoire. Cependant, depuis le début de l'émigration outre-mer ou peu de temps après, il existait une forme d'association entre Chalcis et Mégare. Elle est démontrée, entre autres, par l'épisode mentionné précédemment de l'expulsion des Sicules des Leontinoi exécutée par les Mégariens à la solde des habitants des Leontinoi. Thucydide mentionne aussi la présence des Mégariens à Leontini, qui rapporte non à l'expulsion des Sicules, mais à une guerre menée lors de la fondation. Comme des Leontinoi, les Mégariens furent à leur tour chassés. Ils se réfugièrent à Thapsus, où mourut Lamis, leur échiste. C'est alors que le roi Sicule Iblon leur offrit un territoire où ils puissent construire leur ville qui prospéra jusqu'à l'expulsion de ses habitants par Gélon, tyran de Syracuse, entre 484 et 480. Parmi les fondations grecques du haut archaïsme dans le sud de l'Italie et en Sicile, c'est le seul cas où l'essor des Grecs dépendit complètement du bon vouloir des indigènes. Tant et si bien qu'on peut se demander si Thucydide, qui est notre seule source sur le sujet, ne s'est pas fait l'écho d'une version très méprisante à l'égard de Mégara Ibléa à partir des sources syracusaines qu'il utilise dans cette partie de son ouvrage. C'est alors que la recherche archéologique menée sur le site, depuis maintenant plus d'un demi-siècle, a bouleversé nos connaissances, pas seulement par les données matérielles, mais aussi par la redéfinition de l'élaboration théorique. Par exemple, rappelons-nous ce que l'on appelait la phase de campement, c'est-à-dire la période de durée incertaine entre le moment de l'arrivée sur le site choisi pour l'actisis et la construction des habitations les plus anciennes qu'on ait retrouvées. À cette phase sans bâtiment appartient des silos creusés dans le sol pour conserver les denrées alimentaires. Ce type de silos n'était pas unique. On connaît aussi des greniers élevés au-dessus du sol sur des plateformes circulaires en pierre. Il faut dire que ce plan n'est pas référé à Mégara Ibléa, mais à Érythrée dans l'île d'Eubée. C'est de ces greniers que dériverait le nom de Homo sapiens, désignant une agrégation familiale particulière mentionnée dans le Lex Sacra des Selinuntes. Mis à part un fragment attribué à la fragmentation de céramique attribué à la phase de Finocchido, le site était totalement dépourvu d'habitats de l'âge du fer. Les objectifs et les réalisations qui ont conduit à la forme de la ville construite dans la première moitié du 7e siècle avant Jésus-Christ constituent dès lors un sujet d'enquête de plus grand intérêt dans la mesure où Mégare Bléa, qui n'a plus été occupé depuis l'époque antique, a été fouillé en extension afin de mettre au jour l'ensemble de la zone centrale autour de l'Agora. Des sondages plus ou moins étendus ont aussi permis de reconstruire la grille des rues à l'intérieur des remparts de la ville du 7e siècle. En outre, des relevés géophysiques effectués dans les secteurs ouest du site ont amélioré et étendu notre connaissance de l'urbanisme. À part Mégara et Bléa, seuls Cumes, Sybaris et Selinuntes ont cessé d'être habités après l'Antiquité. Mais uniquement cette dernière, c'est-à-dire Selinunte, fondée par Mégare Bléa au cours de la deuxième moitié du 7e siècle, fait l'objet d'une fouille extensive encore en cours. Les Mégariens ont donc pu planifier l'urbanisme de leur nouvelle ville sans devoir respecter des bâtiments existants, tout le contraire de ceux qui s'étaient produits à Mégare Nisée, à leur patrie originelle, où des sanctuaires datant de l'époque géométrique avaient dû être respectés au fil du temps par les bâtiments des périodes suivantes. L'étude en profondeur que Henri Tresini vient de consacrer à l'identification du module de base utilisé par les mesures nécessaires à la délimitation de l'eau aboutit à la conclusion, qui corrobore une intuition de Georges Vallée, que le but initial de la création de ce module concernait la distribution des terres, bien avant la planification de la ville. Un arpentage analogue et dans les mêmes bouts aura été mis en place pour la subdivision de la Cora en lot agricole. Un simple coupe d'œil au plan de la ville, tel qu'on peut le reconstruire, suffit à mettre en évidence la façon dont la distribution des silos de la nouvelle fondation a eu lieu. Elle suit un ordonnancement rectiligne, en partie parallèle, mais non perpendiculaire. Cette disposition est illustrée par le plan de l'Agora. On suppose que cette particularité vient du fait que les premiers campements étaient organisés en noyaux, isolés les uns des autres, et que dans chacun d'eux, s'était rapidement établi un réseau de sentiers. Ce sont ces dernières qui ont donné les orientations des rues, tant et si bien que leur alignement avec les portes ouvertes dans les remparts a nécessité des ajustements de leur parcours rectiligne. À partir de ces hypothèses générales, Henri Tresini pense que plusieurs équipes d'arpenteurs ont œuvré à la mise en place du plan, ce qui paraît vraisemblable. Les arpenteurs auront également tenu compte de l'orientation des deux principales routes qui traversent la zone défendue par les remparts, reliant les différents noyaux entre eux et à l'agora et à l'extérieur de la ville. Les sentiers étaient également nécessaires à l'approvisionnement en eau, d'abord fournis par des sources, ensuite par des puits creusés dans l'arrière-cour des maisons. Les puits et les silos que nous avons déjà mentionnés, utilisés de l'implantation des apogues sur le site, présentent des localisations qui mettent en évidence, en tenant compte des zones non encore fouillées, la distribution des premiers habitants par groupe. La concentration la plus élevée est des puits et des silos se situe dans les quartiers de l'Agora. Nous pouvons en déduire que cet espace fonctionnellement défini a été identifié dès le départ comme centre politique et organisationnel de la nouvelle fondation. Les lots urbains couvrent des superficies théoriques reconstituées de 1000 pieds carrés. Les pieds étant égaux à 34,4 cm, 4 pieds forment un module de base égal à 1,375 m. Les lots mesurables ne présentent pas tous la même extension. Ceux situés à l'ouest de l'Agora mesurent 121 mètres carrés. Ceux placés à l'est, 135 mètres carrés. Les premiers ont des côtés de 7 pour 9 modules, tandis que les autres ont des côtés de 8 par 8,8 modules. Les résultats de la multiplication donnent 1008 et 1024 pieds carrés. À partir de ces mesures approchées, on déduit la mesure théorique de 1000 pieds carrés. La différence de surface entre les lots de l'ouest et ceux de l'est se réduira si pour les seconds, on adopte des mesures théoriques de 8 modules pour chaque côté. De la sorte, leur superficie s'élèverait à 64 pieds carrés, à peine plus que les 63 pieds carrés de l'eau située à l'est de l'Agora. Trésigny propose d'attribuer cette différence de superficie à des erreurs de géomètre. Mais l'écart est tout de même de 14 mètres carrés, ce qui équivaut à peu près à une pièce de 3 sur 5 mètres. Par conséquent, bien que modeste, la différence est notable. Il ne semble pas possible d'identifier la cause de cette disparité autrement qu'en fonction d'un critère général de hiérarchie sociale dans les corps politiques de Mégaribléa dès sa première génération. Une telle hiérarchie n'est pas invraisemblable. Si l'on considère que le schiste et ses assistants devaient certainement occuper une position dominante, même si toute idée de hiérarchie semble contraire à l'idéologie des isomoiria, toujours mise en avant lorsqu'il s'agit d'apokiai, pour faire contraste avec les fortes différences sociales auxquelles on essayait de s'échapper en abandonnant la mère patrie. Mais l'isomoiria est plus une idéologie philosophique qu'une réalité pratique. L'élo urbain, bien qui théoriquement, mais pas pratiquement, nous venons de le voir, égaux en extension, étaient situés plus ou moins près de l'agora et des temples. Les lots agricoles aussi étaient plus ou moins proches de la ville ou de l'eau nécessaire à l'irrigation. Il s'ensuit que l'égalité théorique des droits n'était pas couplée à la commodité. Ce n'est pas par hasard, si bien plus tard, lors de la fondation de Thurioi, il y eut une émeute à cause d'un différend concernant l'attribution des lots agricoles près de la ville. Quant à l'esciste, les bâtiments situés à l'angle nord-ouest de l'agora étaient interprétés comme les ronds dédiés au culte du fondateur. Suivant un modèle largement attesté dans les monts grecs, à Cyrène, Posidonie, Amphipolis, Érythrée, Athènes. La découverte récente à Selinonte d'une tombe à caissons de pierre entourée d'un mur de Téménos et située presque au centre de l'agora a entraîné une remise en cause de cette interprétation. Les bâtiments de Mégaribléa seraient plutôt un sanctuaire sacralisant une maison datant des origines de la fondation. Sur les modèles de Selinonte, il a également été proposé que la tombe de l'Esciste soit plutôt située au centre de l'Agora, sous les bancs hellénistiques, nettement postérieurs. Une autre possibilité serait que cette tombe se trouve sous les temples dits hellénistiques, car on y a découvert une coupe de Thapsos intacte qui provient donc probablement d'un mobilier funéraire ou d'un dépôt votif. Il reste, bien sûr, à établir qui était considéré comme le schiste de la cité. Lamis était mort à Thapsos, mais nous ne connaissons ni le lieu de son enterrement, ni le nom de celui qui l'a remplacé à la tête de l'apokia. Après la mort de Pentatlos, l'Hérodien, ses compagnons ont été menés par Gorgos, Testor et Pitercides, qui ont assumé ses fonctions jusqu'à la fondation de l'Ibérie. Cet exemple dit qu'après la mort d'un premier ossiste, le groupe d'Apogoi nomme des autres ossistes. La chronologie de l'organisation interne de la ville montre que de nombreux bâtiments datent de la fin du 8e siècle, étant parfaitement implantés dans la grille de l'eau telle qu'elle a été restituée. Les murs qui délimitent les lots le long des rues sont plus tardifs, datant de la seconde moitié du 7e siècle avant Jésus-Christ. L'aspect qui présentait Mégareblea à la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ est celui de la cité telle que l'avaient dans l'esprit les apogoi. Une structuration libre de toute contrainte imposée par le passé, à la différence de la mère patrie. Une répartition à peu près égalitaire, mais prenant en compte l'exercice des responsabilités publiques qui, par conséquent, demandait une forme de reconnaissance. Une organisation par noyau, chacun indépendant comme pour les gaines, mais tout relié à un réseau de chemins convergent vers l'agora, siège des cultes et des institutions. Dans notre prochaine conférence, nous discuterons d'une fondation différente sur la côte ionienne de l'Italie méridionale, la fameuse Sybaris. Merci.